Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, bienvenue sur la route inconnue. Vous retrouverez tout à l'heure vos chroniqueurs, Jacques Mau, Touzeil et Jean Antonini, mais on va passer tout d'abord quelques moments avec Marie-Cécile Fauvin. Alors, souvenez-vous, il y a de ça 15 jours, nous avons donné la parole à Danielle Faugerat, qui est directrice de la collection Poepsy aux éditions RS. Danielle nous avait aimablement offert quelques livres publiés dernièrement dans sa très honorable et très fréquentable maison. Parmi ces livres, l'un m'a ébloui, Seconde de Yanis Ritsos. Alors il s'agit du dernier des quatre recueils du grand poète grec publié à titre posthume en 1991 aux éditions Kédros sous le titre Tard, bien tard dans la nuit. Ce livre était à ce jour inédit en français. Et c'est donc à vous, Marie-Cécile Fauvin, que nous devons de pouvoir le lire et l'aimer. Alors, bonjour.
Bonjour.
C'est donc vous qui avez traduit du grec cette liasse de poèmes poignants. Ce sont donc, je le disais, les derniers écrits par Yanis Ritsos, des poèmes courts, habités à la fois par le doute et l'éblouissement de vivre. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer dans quelles circonstances ces poèmes ont-ils été écrits?
Donc, ces poèmes ont été écrits entre l'année 1988 et 1989. Donc, Ritsos s'est affaibli par l'âge et la maladie. Il sait que ses jours sont comptés. Et il sait que le compte à rebours est enclenché. C'est peut-être pour ça que le titre du recueil s'appelle Seconde. Donc forcément, les choses, le monde prend une autre dimension, une couleur plus intense, peut-être. Parallèlement, c'est aussi l'effondrement du choc, du bloc soviétique. Donc c'est la fin d'un rêve collectif pour lequel il avait lutté, souffert, pour lequel il avait été incarcéré de nombreuses fois.
À ce moment-là, Ritsos est encore communiste.
Il n'a jamais rompu avec le parti. Il est toujours resté fidèle au parti. Bon, ça n'empêche pas qu'il n'avait pas un regard naïf sur ce qui se passait autour de lui, pour autant.
Alors, le doute qui habite l'homme atteint aussi le poète, hein. Je cite ce recueil, les mots si fiers jadis seraient-ils tristes à présent que tu les abandonnes? Se peut-il qu'ils vieillissent eux aussi, se demande Ritsos, dont la foi à l'égard du poème a toujours été très forte. On peut dire que c'est la poésie, quand même, entre autres, qui lui a permis de supporter ce que vous disiez, la dictature, la prison et l'exil. Alors, comment on doit interpréter ce doute soudain par rapport, envers la poésie?
Alors, effectivement, Ritsos utilisait l'expression to epi ousio poiema, ce qui veut dire à peu près le poème peint quotidien. Je pense qu'ici, il ne perd pas foi dans le pouvoir de transformation de la poésie, ni foi dans le pouvoir de la poésie à conjurer la souffrance et la mort. C'est simplement un moment. Comme un autre, dans le recueil, il y a enfin, ce poème particulier est contrebalancé par d'autres où il affirme le contraire. Donc, je pense qu'il faut lire ce recueil où les poèmes sont datés, un peu comme un journal intime où les humeurs fluctuent d'un jour à l'autre.
Oui, parce qu'à l'égard du monde et de ses merveilles, alors ce sont toujours des merveilles bien humbles, la foi effectivement de Ritsos, comme vous le dites, est intacte. Et là, j'en veux pour preuve ces vers admirables. Je suis tombé en pamoison devant ce vers qui est d'une extrême simplicité et que vous avez restitué dans sa traduction de manière prodigieuse. Je vous le livre. Aujourd'hui encore, parfois, tu peux, avec la clé d'un simple trèfle, ouvrir le monde. C'est un vers admirable, hein. Est-ce que, quand vous l'avez traduit, vous avez eu peur, je veux dire, voilà, voilà un poème très très court et il faut pas se louper, quoi, faut pas se tromper, non?
Oui, bah, il faut peser chaque mot, chaque préposition, chaque article enlever quand le verre est trop lourd, voilà, supprimer au bon juste endroit, ajouter là où il faut, voilà.
Pour en revenir aux merveilles du monde, on a parlé, je crois, de sainteté du quotidien à propos de Ritsos. Est-ce que ça vous semble juste?
Oui, effectivement, Ritsos est plutôt connu comme le poète des grandes causes, comme le chantre de l'hellénisme combattant, mais il y a aussi chez lui une autre veine, une autre voix, plus confidentielle et plus intime. où on le voit justement souvent dialoguer avec le microcosme des choses. Dans ce recueil particulièrement, on voit une cruche, un œuf sur une table, une brouette. Je pense aussi que cet intérêt pour les petites choses humbles vient de ces nombreuses incarcérations. Je crois que quand le quotidien est réduit à l'élémentaire, on est particulièrement attentif à l'encadrement d'une fenêtre, au moineau qui vient se poser là, à la lune qui apparaît tout à coup.
Alors,
voilà.
C'est un quotidien souvent
à l'essentiel.
Transfiguré. Hein, parce qu'on voit, on va passer, alors pas forcément dans ce recueil, mais dans beaucoup, des figures antiques, voilà, qui passent comme ça dans la vie quotidienne. C'est typique de Yanis Ritsos, hein, la Grèce contemporaine et la Grèce antique se dialoguent à travers lui souvent.
Oui.
Ouais.
Bon, chez beaucoup de poètes.
Chez beaucoup de poètes. Ouais. Alors, on va parler de votre travail de traductrice. Comment est née votre passion du grec et comment êtes-vous devenue traductrice?
Comme un certain nombre de néo-hellénistes, j'ai commencé par le grec ancien, du fait de mes études de lettres classiques. Et quand j'étais en licence, j'ai eu l'occasion de partir par Erasmus en Crète pendant un an. Donc c'est là que j'ai appris sur le tas le grec moderne. J'ai ensuite, à mon retour, suivi un double cursus, donc à la fois lettres classiques et lettres et grec moderne. Ensuite, j'ai travaillé pour le Festival des Voix de la Méditerranée à l'Odève, j'habite pas loin, quelques années comme traductrice, voilà. Les choses se sont enchaînées.
Vous avez toujours été attentive à la poésie grecque?
Disons que ce festival a fait que j'ai rencontré beaucoup de poètes, les principaux poètes vivants, quoi.
Oui. Donc,
et de rencontre en rencontre.
Et la traduction s'est imposée à vous assez rapidement?
Oui, bon, j'aime la langue depuis très très longtemps et je pense que c'est un chemin attendu finalement.
Alors, les racines latines de notre langue sont connues de tous, mais à certains égards, la langue française est aussi quand même une arrière petite fille du grec ancien. Dans quelle mesure l'est-elle encore?
Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que le latin lui-même a beaucoup emprunté au grec. Donc, sans s'en rendre compte, on parle beaucoup plus grec qu'on ne le croit, dans des mots très très courants comme enthousiasme, photographie, téléphone, polychrome, hygiène, xénophobie, enfin tous ces mots qui nous entourent. Et puis aussi bien sûr tout le vocabulaire savant et médical qui a beaucoup emprunté au grec. L'histologie, l'hématologie, l'échographie, voilà. Donc on a une grosse dette envers le grec, enfin envers la langue grecque. Certains disent que si les Français payaient un centime d'euro chaque fois qu'ils utilisent une racine grecque, la dette grecque serait remboursée.
C'est une bonne idée, ça, dites donc.
C'est pas de moi, mais je ne fais que colporter.
J'ouvre une parenthèse. Votre regard justement sur l'actualité grecque, on sait que c'est un pays qui traverse bien plus que des difficultés, une nouvelle tragédie pour ce pays. Vous le vivez comment?
Écoutez, j'espère qu'on laissera ce gouvernement, le nouveau gouvernement, nous gouverner. C'est ce que visiblement l'Europe a du mal à faire, pour voir ce qu'ils ont proposé et si ça fonctionne chez eux. Mais bon, la situation est complexe. Les Grecs, même s'ils soutiennent majoritairement leur gouvernement actuel, ils sont pas naïfs. Ils ont l'impression de revivre 50 ans après l'histoire à nu, dans toute sa cruauté.
Oui, il faut rappeler que c'est un pays qui a énormément souffert, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. L'occupation a été terrible.
Oui, l'occupation, et puis la lutte des partisans donc contre l'occupant. Et puis le tragique épilogue de la guerre civile, bien sûr.
Je vois encore une parenthèse dans la parenthèse, une actualité franco-française. La disparition programmée ou presque de l'enseignement du grec dans les établissements scolaires français vous chagrine?
À vrai dire, je n'ai pas suivi les débats actuels. J'ai l'impression que c'est un débat qui dure depuis très longtemps. Alors je ne sais pas si les langues anciennes vont subir le coup de grâce Bon, c'est sûr que oui, je ne peux que le regretter, puisque par mes études, j'ai été en contact avec les racines. Et je pense que c'est important de connaître les racines des mots.
Alors, je voudrais qu'on reparle à nouveau donc de votre travail de traductrice. Moi, j'ai l'impression que, peut-être trompeuse, hein, que traduire de la poésie est quand même plus épineux que traduire un roman ou une recette de cuisine, parce que la poésie, finalement, est déjà une langue étrangère si on la compare à la langue usuelle des peuples. Est-ce que je me trompe?
Oui, je pense que c'est plus difficile de traduire de la poésie que de la prose, encore que ça dépend quel texte de prose. Bon, pas la recette de cuisine évidemment, mais tout texte qui est centré sur la langue, qui apporte une attention particulière au rythme, à la musicalité, qui joue sur la polysémie des mots, est forcément un vrai défi pour les traducteurs.
Et alors, il y a un proverbe que je ne vous ferai pas l'injure de vous le redire, de traduire, c'est trahir, mais est-ce que traduire, ce n'est pas non plus réécrire?
Si, bien sûr, c'est un travail d'écriture à part entière. Enfin bon, c'est un travail de réécriture, mais c'est un véritable travail de création. Je pense qu'on peut employer ce terme.
Vous-même, vous écrivez la poésie? Non. Je crois que vous avez, par contre, en revanche, publié un livre sur... la thématique de l'apocalypse.
Oui, c'était pas mon choix, c'est une commande.
C'est une
Mais je l'ai
commande?
faite avec plaisir, oui.
Ouais.
C'était un travail d'écriture pour le coup.
D'accord. Alors, vous êtes fait des frayeurs en travaillant ce Rissos. Est-ce que vous aviez un amour particulier pour lui?
Je le connaissais assez mal,
Ouais.
j'avoue humblement. Donc je l'ai plus découvert par le biais de cette petite entrée. Des frayeurs, pas vraiment. Je pense pas que c'était pas un texte redoutable. Il y a des choses plus difficiles. Mais malgré leur apparente simplicité, ces textes m'ont quand même donné du fil à retordre. Et il a fallu pas mal cogiter et ruminer pendant des semaines et quelques mois, ces textes pour arriver à les rendre de façon correcte, surtout pour arriver à recréer un objet poétique. C'est ça le plus dur.
Alors, je pose une avant-dernière question. Est-ce qu'il existe un plaisir de la traduction? Et si c'est le cas, je suppose que c'est le cas. Est-ce que vous pouvez nous le décrire?
Un plaisir, oui, bien sûr, c'est passionnant. C'est le plaisir d'arriver à trouver le juste mot, d'arriver à transférer dans un contexte linguistique et culturel différent quelque chose qui, a priori, semblerait ne pas l'être. C'est arriver à faire décoller un texte, tout simplement. C'est parce que, bon, si on traduit mot à mot ou presque mot à mot, on a un texte très plat. Et voilà, c'est par un travail de joaillerie fine, je dirais, qu'on parvient à lui donner son envol. Et quand on y arrive, on est content.
Est-ce que ce travail, vous l'avez montré? Est-ce que des proches de Rizzo, bon, Rizzo c'est mort, bien évidemment, mais des membres de sa famille ou des amis l'ont lu? Est-ce que vous avez travaillé avec eux? Comment
Oui.
on travaille tout seul ou...
Écoutez, peut-être parce que je suis une traductrice en devenir et pas une traductrice qui a pignon sur rue, je me suis fait aider. Je pense que c'était une bonne chose. J'ai été en contact avec deux personnes qui l'ont côtoyé de près, une philologue bon, je sais pas, une autre philologue, on va dire, que j'ai interrogée à la fois sur le contexte d'écriture de ses poèmes, sur le sens de ses poèmes, parce que ils sont souvent énigmatiques. Ça n'apparaît pas du premier coup, mais c'est un peu, il faut casser la noix pour arriver au sens, aux multiples sens, souvent. Et je l'ai fait lire aussi à des gens qui n'étaient pas des spécialistes de Rizzos, mais qui sont des gens avertis, d'autres poètes, des amis. Et chaque fois, j'avais des échos différents, des interprétations nouvelles qui enrichissaient le tour du poème et qui m'aidaient, je crois, à traduire. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cet effort de l'accès au sens
En tout cas,
pour une bonne restitution.
nous saluons quant à nous votre réussite. C'est un très beau petit livre que je conseille à tout le monde. On va d'ailleurs là maintenant en lire quelques extraits à nos auditeurs. Je vous remercie beaucoup, Marie-Cécile Fauvin. Je crois que vous allez vous envoler pour la Grèce très prochainement.
Peut-être,
Oui.
sûrement. C'est moi qui vous remercie.
Je vous en prie. Merci
Au
beaucoup.
revoir.
Les oiseaux à l'orée de l'automne, quand la brouette au jardin, avec ses peaux vides, s'absorbe en son ombre et que règnent les pierres nues. Une toute petite plume blanche d'un oiseau de passage est tombé dans les épines, un monde infime, le monde entier. Les roses ont refleuri multicolores, des papillons blancs les visitent. Alors, pourquoi nous faudra-t-il mourir? Les soldats d'hier ont vieilli. Peu à peu, meurent aussi les mots. Sur la table, un œuf solitaire. Ils ont allongé le noyé sur le quai, jeune, beau, nu. À son bras gauche, la montre marche encore. La nuit, parfois, encore aujourd'hui, un rossignol me somme de dire à nouveau oui. Qui a posé cette fleur près de ma cigarette pour que je croie peut-être. La porte s'est ouverte toute seule. Personne. Apprendre enfin à ne pas attendre. Il s'est rappelé, presque avec émotion, les mangeurs de pommes de terre, les vapeurs qui montaient des patates chaudes. Pourtant, sur les vitres embuées, il a tracé du doigt un zéro. Blanches, les maisons d'en face, bleues, la montagne derrière. Aucune couleur à présent n'éveille en toi le mot aimer. Les mots, si fiers jadis, seraient-ils tristes à présent que tu les abandonnes? Se peut-il qu'ils vieillissent eux aussi? Ces objets simples, familiers, sont devenus ses amis, lui ont accordé leur confiance. Assis près d'eux en silence, il allume sa cigarette, sa seule étoile. Que dire à présent? Que faire? Des ossements, rien que des ossements, et parmi eux, une toute petite fleur jaune. Il a fait très froid ces nuits-là. Ils ont fait du feu pour se réchauffer, n'avaient rien d'autre, ont évoqué l'inanité. Un papillon bleu sur une marguerite blanche. Il m'a convaincu. Tu as vu cet oiseau perché sur le front de la vache? C'est pourquoi je m'obstine. Les mots s'effacent au fil des ans. Le mot « mère » reste avec son sourire caché et son foulard noir. Où que tu ailles, la mort marche sur tes talons. Tu te retournes un instant et tu lui montres une fleur ou un poème, et la mort s'en va. Pour combien de temps? Il ne rend pas les armes. Il s'efforce d'opposer quelque chose de beau à la nuit qui vient. Mais la beauté est transparente, et derrière elle se dessine la plaine des asphodèles. Avant que j'aie compté sur mes doigts jusqu'à 10, la nuit est tombée. Nous sommes restés sans rêve, sans pain. Il a essayé de gravir à nouveau la grande échelle, n'a pas eu la force, est redescendu appuyé sur sa fatigue. Tant des points de suspension, des sourires équivoques. Le vin a vieilli dans les 11 verres. Vide le 12e. Désarmé. Oui. D'une seule petite plume de ses larges ailes d'antan, il trace encore une fleur triste. Le danseur, qui tel un ange s'élançait de la fenêtre, à présent, à genoux, implore Dieu pour une orange. Il ne lève plus la main pour saluer l'oiseau, l'arbre, le nuage. Mais voici qu'une fleur s'ouvre et l'exhorte à dire encore « merci ». Dis-le. Il est seul sur le banc du parc avec un seau et une large brosse, tel un peintre là d'attendre que quelqu'un, mais qui, lui commande de chauler l'antique et sombre bureau de poste. Deux, trois papiers de couleur, blanc, rouge, noir, il fabrique une fleur artificielle, la pique à sa boutonnière.
Il ne sort pas dans la rue. Jadis, la lune te protégeait de sa mélancolie même. Elle t'ignore à présent. Hautaine en sa durée, lointaine en son silence, inaccessible. Pas de route devant. Si seulement tu pouvais rebrousser chemin, peut-être qu'au vieux jardin t'attendrait un moineau. Comment cet homme simple a-t-il pu enrichir le monde avec des petites tables de terrasse de café, des feuilles, des oiseaux, des parasols. Dans le champ jaune, une poule noire. Dans le jardin, un paon qui fait la roue. Dans la boue, un pétale de rose. Dans le vide, un poème. Avec l'audace du désespoir, caché derrière son sourire, il distribue des bonbons aux enfants et aux vieillards des ballons multicolores. De la montagne, tu contemples la mer et un petit voilier blanc comme une feuille de papier ou écrire un poème d'enfant. Eh bien, tu ne vas pas l'écrire? Aujourd'hui encore, parfois, tu peux, avec la clé d'un simple trèfle, ouvrir le monde.
Les variations Goldberg pour accompagner jusqu'à son terme ce très beau livre Seconde, les derniers poèmes de Yannis Ritsos, traduit par Marie-Cécile Fauvin, que je remercie encore une fois de nous avoir accordé un peu de son précieux temps. Seconde est donc disponible aux éditions RS Collection Peau et Psy, collection dirigée par Daniel Faugeras. Je vous propose à présent de retrouver notre ami Jean Antonini, et on va rester dans la poésie brève, lapidaire, puisque Jean Antonini se propose chaque mois de refaire l'histoire du haïku, et nous abordons, je crois, la période contemporaine du haïku avec Jean Antonini.
L'année 2003 va marquer l'explosion de la pratique du haïku en France et en francophonie. La même année paraît « Anthologie du haïku en France » aux éditions Aléa, Lyon, sous la direction de Jean Antonini, et l'Association française de haïku est créée par Dominique Chipot et Daniel Py. L'anthologie est la première à être publiée en France depuis 1923, soit 80 ans de maturation du genre dans l'Hexagone. On y lit 81 poètes, 10 poèmes chacun, en français, en anglais, les préfaces de Alain Kerverne et Georges Friedenkraft, et les postfaces du poète japonais Banya Natsuishi, Haïku, la deuxième vague, de Pierre Courtois et de Daniel Py. Le livre a été bien accompagné sur les fonts baptismaux. Quelques poèmes de Dagadès, l'érable, l'acacia, fleur blanche en grappe qui lentement oscille. Toc, sur les vitres, comme elles se cognent, les mouches. De Gabriel Le Gall, sous le cerisier en fleurs, même la jeune fille n'ose s'aventurer. Il y a un temps aussi pour la floraison des ronces. De Bruno Sourdin, la douleur, ah, réveille en sursaut sur un lit d'hôpital. Allongé dans mon lit, fermant les yeux, je vois la mer aussi. De Georges Friedenkraft, les pins violets, l'écorce craque, un écureuil somnole. Déjà, l'herbe ronge l'asphalte de l'an dernier, viaduc des mouches. De Michel-François Lavore, il flamboie l'automne qui nie de ses couleurs chaudes le petit vent froid. Un seul idéogramme auquel je n'entends rien, m'ouvre la vie secrète. De Jean Monod, 10 corbeaux dehors, pourtant je n'ai pas brûlé mes vieux manuscrits. Hiver féerique, oh, silencieux, voici que tu allumes ma lampe. De Roland Tixier, air glacé, je pleure sans aucune raison, seul sur le quai du métro. Métro du dimanche, fleurs sous cellophane et produits du marché. De Daniel Py, promenade matinale, ma chienne de la couleur des feuilles. Chant de pavot, à perte de vue, hommes en guerre. De Dominique Chipot, deuxième tiers à côté des ciseaux, démangeaisons. Plage d'hiver, nos souvenirs de l'été déjà effacés. Ces deux derniers poètes fondent l'AFH, qui deviendra en 2012 l'association francophone de haïkus, sous la présidence de Martine Gonfalonne. Le numéro 1 de la revue papier Gong, dédié au haïku, paraît en octobre 2003. La parution est trimestrielle, actuellement à son 48e numéro. La FH publie également des recueils pour faire connaître le travail des poètes de haïku francophones. Elle organise un concours annuel et tous les deux ans un festival. Nancy, Paris, Montréal, Lyon, Martigues, Vannes et bientôt Québec. En 2006, une seconde association a été créée par Dominique Chipot, l'Association pour la promotion du haïku, qui publie la lettre et la revue numérique PLOC. Le haïku s'est enraciné dans les sols francophones.
Et c'est tant mieux, cher Jean Antonini, Jean que vous retrouverez désormais à la rentrée pour une nouvelle série de chroniques. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, car je n'en sais pas plus. La poésie et la musique font bon ménage. De prestigieux interprètes ont chanté les poètes. Je pense à Léo Ferré, je pense à Bernard Lavilliers aussi, plus proche de nous. Eh bien, la tradition se poursuit. J'ai l'honneur de vous faire écouter à présent en primeur un poème de Michel Baglin, « Cette vie, la portée », chanté par Samba Dodia Adia dans une ambiance bossa nova.
Cette vie l'a portée jusqu'à l'incandescence, comme un bouquet fragile d'étincelle sauvée. Dans un éclair fait, il aurait un peu de sens. L'a portée comme un feu, autant des hommes nus, comme un noyau de braise à transmettre à tous ceux qui refont la genèse. Paradis perdu, cette vie leur pantée d'un bon pain de marge, qui saurait cependant qu'il peut se dérouter, qu'il n'est ni lieu ni heure pour arriver à temps, leur bander ou flâner. Si selon la saison, la manière qu'on a de chercher l'horizon d'accorder son pas au monde traversé, cette ville enchantée d'un sourire entrevu, de ces bonnes fortunes du passant amusé et des hôtes accueillis par hasard dans la rue, l'enchanté à l'envie. Un petit coup de cœur, petit coup de chance, manqué dans l'âme sœur, ou la clarté d'enfance, dans un regard surpris. Et cette ville inventée, contre l'usure des mots, les lèvres trop prudentes et les gestes étriqués, et les rêves fins, l'eau qui nous lie dans l'attente, l'inventer à propos. Puisque le cœur réclame un peu plus de vertige, un peu plus d'état d'âme, et que le chant exige, et la langue et la peau, cette vie l'a joué, un peu de jazz au ventre, pour panser la blessure, et que l'eau du large entre, des lilas au mur, des sanglots ravalés, la jouée triomphante. S'il le faut contre nous, quand la peur nous défait, mais n'oubliez jamais cet abîme au-dessous des ailes qu'on s'invente. Cette ville éclairée à la danse des flammes, sur une hanche nue au feu de camp des femmes, à l'étoile allumée sur un visage ému, l'éclairé d'allégeance. Faites à la lumière, à la la fontaine claire, comme à l'alcool des nuits. Cette ville a grandi par le corps réveillé, l'infini paysage qui nourrit le désir de trouver un passage et le repos de pied, la grandir par la mer, par la vague et par l'aile, par la voile et le vent, l'inventer fraternel, par les yeux grands ouverts qui nous font plus présents. Cette ville a fêté en allant jusqu'au bout, dans la paix, la fièvre ayant su la risquer, en se tenant debout et la caresse aux lèvres, la fêté en secret, en lui offrant son temps et croire désapprendre la peine et les regrets en leur abandonnant. Les jours tombés en cendres, la fêter en secret, en lui offrant son temps, y croire désapprendre la peine et les regrets, en leur abandonnant. Les jours tombés en cendres, la fêter en secret, en lui offrant son temps, en leur abandonnant. Les jeux tombés ensemble, les jeux tombés ensemble, les jours tombés ensemble. Bambila qui
Cette vie l'a portée, un poème de Michel Baglin, chanté, mis en musique par Sambado Dia Adia. Je vous propose à présent d'écouter sans coup férir les chroniques de Jacques Morin, directeur de publication de la revue des charges, notre partenaire, suivi des petites miettes de poésie et d'humour de notre ami Jean-Claude Touzey, le grand sorcier de Durcey.
Audio numéro 21, le cri d'os numéro 41-42. Enveloppe ouverte, on croit un moment halluciné. Une nouvelle livraison de la revue Le cri d'os, pourtant disparue en 2003. La couverture est un peu plus étroite et de papier différent, avec ici photo couleur et pelliculage. En fait, elle ressuscite pour un numéro spécial consacré entièrement à feu son animateur, le poète Jacques Simonomis, grâce à Christophe Defin et aux Hommes sans épaule édition. On est donc aux confins d'un numéro de revue et d'une monographie. La revue a existé 10 ans, entre 2003 et 2013, et s'est arrêtée au numéro 40. Et Jacques Simonomis s'est éteint il y a 10 ans tout juste. Cette présentation en trompe-l'œil et pour rire ferait presque oublier que Simonomis fut surtout un poète, avant d'être une décennie durant, un revueiste incontournable. L'hommage qui lui est rendu remet les choses en perspective. Christophe Dauphin, dans une première partie fournie, s'attarde chronologiquement sur la vie et l'œuvre du poète en s'intéressant à chacun de ses recueils, ainsi qu'à son engagement libertaire et humaniste qui lui fera consacrer des études à Tristan Corbière et Gaston Couté, entre autres. Pacifiste aussi, puisqu'il connut la guerre d'Algérie pendant 28 mois, comme toute cette génération de poètes qui en fut profondément marquée. Simonomis reste original, puisque sa poésie et au-delà son écriture sont difficilement classables. Gravité et légèreté se croisent, réalisme et imagination voisinent, fantastique, fantaisie et humour cohabitent, le tout dans une langue où le lexique n'a pas de limite. Simonomis, qui a fait de son nom un palindrome, a trouvé un style, une plume, et un ton pour le moins singulier. Nous qui ne sommes pas nés, gens sans terre, sans fortune, petit peuple qu'on range d'un coup de trompe ou de langue avec la meute. Il a su faire de son socle prolétarien un tremplin pour un imaginaire débridé, insolite et fantaisiste. On a volé le tapis volant, reflétri le roseau pensant, coupé la bosse au dromadaire, fait la guerre au propriétaire. Avec grand appétit de vie et des conquêtes du temps, je ne crois plus à mon déclin. J'appartiens à la route. J'ai faim. Son sens du merveilleux se marie parfaitement à l'érotisme dont le poète est friand. De mes poings sortent des oiseaux. Autour de tes seins, je tatoue des poèmes que tu ne peux pas lire. Jacques Simonomis est à lire ou à découvrir. J'écris pour ne pas me rendre, écrit-il. Poète plus complexe qu'il ne paraît, il a su couler sa poésie si personnelle dans l'éventail des formes, de l'aphorisme à l'histoire courte pour chaque fois faire mouche. Perfectionniste, il raturait ses ratures. Le clandestin. Le train s'arrêta, je sautais sur le ballast et longeais les wagons plombés à la recherche d'un signe. Un ver luisant me prit la main. Nous évitions les aiguillages où le destin bascule, car nous voulions toucher le bout des nuits, là où la solitude, la liberté et la mort étendent sur le champ le drap du jour nouveau. Le Chrysos, numéro 41 et 42. Information sur la page d'accueil du site de l'émission, comme d'habitude. À bientôt.
Alors aujourd'hui, quelques poèmes très courts de Malcolm de Chazal, qui est un poète de l'île Maurice du XXe siècle. Toute pierre dans le mur se sent enterrée vive. Le jet d'eau faisait des exercices pour maigrir. La mer, quand il pleut, croit avoir enfanté la plage. L'auto n'atteindra jamais la vitesse de la route. Tous les accidents arrivent quand la route change d'idée. Un troupeau qui marcherait au pas ferait rire les autres animaux. Voilà pour De Chazal. Et puis quelques questions. Est-ce qu'à la bourse de Vientiane, la tendance est bien à la hausse? Est-ce qu'il le laisse dans la valise, le lys dans la vallée? Est-ce qu'il passe à l'orange, le citron pressé? Est-ce que quand oiseau nous fume, nous nous plume? Et enfin, est-ce qu'on peut affirmer avec certitude que le mois d'août...
Si vous avez les réponses à ces questions posées par Jean-Claude Touzet, n'hésitez pas à nous les transmettre. Allez, appelez-moi au 02 37 28 10 53 si vous le voulez. La fin de cette émission est venue. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle édition de La Route Inconnue. Je vous laisse avec quelqu'un de très recommandable, un grand bluesman que vous avez pu déjà écouter au cours de cette émission, Azmat Modine, pour deux morceaux pour le prix d'un. Excellente fin de journée à toutes et à tous.
To my house, set him down at my table, gave him all food I was able. He ate my chicken and he drank my tea. Now he's trying to take my gal from me. Do you call that a buddy? Where could
I be your buddy, huh? I'm gonna shoot my buddy. Well, cousin, he's such a dirty guy.
It's over.